BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom sur BFM Business. Aujourd'hui, une émission spéciale, retour des Cannes Lions. Nous recevons Ricardo Fregoso, c'est le directeur de la création de McCann Paris, seule agence française à avoir décroché un grand prix. Et puis zoom sur le digital primé à Cannes avec Grégory Pascal, le président de l'ACC Digital, et Audrey Tamic de Proximity Paris. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Et bonjour Frédéric Croix, rédacteur en chef de CB News de retour de Cannes.
Et bonjour Aurélie.
Et bonjour Marie Valogne.
Bonjour Aurélie.
Alors Marie, cette semaine, Paris 2024 nous dévoile un spot sur les réseaux sociaux avec les grands noms du sport.
Et oui, des noms comme Teddy Riner, Laure et Florent Manaudou, Raphaël Varane, des sportifs qui tiennent tous le même discours pendant 1 minute 30. Le sport a complètement changé leur vie. Par exemple, Martin Fourcade avoue qu'il collectionnait les timbres avant de collectionner les médailles. Kevin Mayer rappelle qu'il n'était qu'un Kevin parmi tous les Kevin avant de devenir un véritable champion. Le sport peut tout changer, c'est le slogan de ce premier film de Paris 2024. Un film conçu par Buzzman et réalisé par Albert Albert pour Iconoclast.
SOS Homophobie dénonce la haine sur Twitter.
Pour dénoncer les tweets à caractère homophobe sur le réseau social, l'association a fait appel à des dizaines de volontaires. Ils ont tous remplacé leurs photos de profil par les couleurs du drapeau LGBT et à chaque tweet homophobe identifié sur Twitter, ces ambassadeurs de SOS Homophobie se sont coordonnés pour répondre aux auteurs de ces messages de façon à créer une seule et même réponse. Tous unis, nous sommes plus forts que l'homophobie. L'affichage de cette série de messages sur Twitter donne visuellement les couleurs du drapeau LGBT. La campagne est orchestrée par TBWA Paris.
Et puis on vous en parlait dans HebdoCom, le collectif Les Lions qui milite contre le sexisme dont la pub a remis ses prix sur la création équitable à Cannes, Marie.
Seulement un peu plus de 11% de campagnes ont été jugées équitables par les Lions. Plusieurs critères entrés en compte pour remettre ces prix. L'absence de stéréotypes, de clichés ou encore la présence de 50% de femmes dans les équipes de production. La conclusion des Lions est sans appel. La créativité dans le monde de la pub est monopolisée par les hommes. La profession doit être bousculée et les talents féminins remis sur le devant de la scène.
Eh bien, ça aura été une des thématiques de la saison, Frédéric.
Oui, absolument, mais je pense que c'est pas mal que ça se termine comme ça, par un rappel un peu chiffré, si on peut dire, in situ de la situation. Alors, je sais pas si c'est dominé complètement, etc. Je suis pas bien placé pour le savoir, mais en tout cas, c'est bien de le dire. Il y a qu'à espérer maintenant que, effectivement, ce sera entendu dans les agences, par les professionnels, pour qu'ils agissent en conséquence. Oui.
Merci, Marie.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Ricardo Fregoso. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la création chez McCann Paris. À votre actif, la campagne la plus primée des Cannes Lyon cette année, Street Vet de Purina avec 9 prix. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord un peu le concept de cette campagne?
Oui, tout à fait. Vous le savez peut-être pas, mais en France, il y a beaucoup de maladies canines qui sont pas diagnostiquées à temps parce que naturellement, les chiens communiquent de plusieurs façons, mais ils n'arrivent pas forcément à communiquer avec précision une souffrance. À partir de là, on s'est dit avec les teams créatives et stratégiques de l'agence, on s'est dit comment on pourrait arriver à faire un diagnostic de la façon la plus naturelle possible. Mmh. Et c'est là où l'idée de Street Vet est née, parce que il s'agit tout simplement d'un billboard, donc d'un affichage digital urbain qui permet à travers l'urine des chiens d'analyser leur santé en live, donc en moins de 30 secondes.
Donc en fait, votre chien urine au bas du panneau d'affichage, c'est ça?
Oui,
et
exactement.
En fait, on a tout de suite un diagnostic.
Exactement. Donc le chien est attiré par des phéromones.
Ouais.
Donc naturellement, on a pensé aussi à créer un espace. Donc c'est un long travail de recherche, de design,
j'imagine,
de recherche d'ingénieurs, aussi avec des vétérinaires. On a pensé à créer un espace qui marche pour les mâles et pour les femelles. Après, naturellement, ils sont attirés par ces phéromones. Ensuite, vite, ils font pipi, pardonnez-moi. et donc, ça touche des bandelettes qui réagissent et il y a une caméra qui analyse les réactions colorées et selon les différentes couleurs, va établir s'il y a un problème de pH ou de pH ou de glucose ou d'autres. Et à partir de là, bon, naturellement, il y a, disons, un premier alarme. On peut dire tout va bien ou on peut dire il vaudrait mieux aller consulter un vétérinaire parce que on a un paramètre qui est hors norme.
Frédéric, c'est vachement malin.
Ouais. C'est absolument admirable. Et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que ça représente tout à fait la publicité telle qu'on la voit à Cannes aujourd'hui. Mm-hmm. C'est-à-dire, la publicité, maintenant, elle doit absolument servir le client, le consommateur, pour être efficace, on fait plus juste une affiche en disant achetez Purina, quoi.
Oui, bah c'est une vraie tendance qu'on a observée à Cannes et pas seulement dans la création française. Il y a une première grosse tendance, c'est quand même l'implication des marques dans des valeurs, hein. Et c'est peut-être aussi le recul, surtout aux États-Unis, de la politique dans ce genre de domaine. Mais ensuite, c'est vrai qu'au-delà des valeurs, donc tout ce qui est Grand Prix for Good, et là aussi, on parle quand même de santé animale, donc oui, il y a un engagement. Il y a, c'est vrai, une expérience avec au centre un service qui est offert aux consommateurs. Mm-hmm. Donc voilà, oui, effectivement. Après, l'idée, c'est quand même, et Purina Street Vet est un exemple, c'est quand même un moment d'aller proposer des produits et donc de driver après à la consommation, parce que même oui. Notre affichage digital propose des produits spécifiques, professionnels, de vétérinaires, pour essayer de pallier au problème. Mais à la base, il y a de toute façon, effectivement, un service. Voilà.
Vous l'avez fait là en France à Paris, mais est-ce que vu le succès de cette campagne, est-ce que vous envisagez de le dupliquer ailleurs ?
Bien sûr, on a eu pas mal de requêtes de Russie, au Canada, aux États-Unis. Notre client Purina est en train d'envisager la possibilité effectivement de le produire en plus large échelle. Après, c'est vrai que ça demande un investissement conséquent.
Donc, la technologie quand même.
Mais bon, là, on est à un prototype qui nous satisfait et qui marche. Donc c'est vrai que le pas pour aller plus loin n'est pas si difficile. Donc.
Alors, vous avez été aussi primé, pas seulement pour cette campagne, mais pour une autre campagne pour Vogue,
oui.
Qui s'appelait
Non Issue.
C'est une campagne pour L'Oréal.
Pour L'Oréal, oui. Dans Vogue, pardon, oui. Mais qui prenait Vogue comme support en y publiant uniquement des photos de femmes de plus de 50 ans.
Oui.
Est-ce que vous pouvez, là aussi, nous raconter un peu le tenant et les aboutissants de cette campagne ?
Avec plaisir. Donc, effectivement, il s'agit d'un numéro de Vogue UK, de Vogue Angleterre, entièrement dédié aux femmes de plus de 50 ans. L'idée, naturellement, c'était pas tout simplement de s'arrêter au fait de faire participer ces femmes, mais de faire de sorte que ces femmes soient à la base même de la création de cet objet. Donc, on a un numéro de Vogue. Vous savez, dans la tradition, ça avait commencé avec Vogue Italie dans les années 90, avec Franca Sozzani qui lançait des issues, hein, on les appelle comme ça, mm-hmm. dédiées à provoquer la société pour essayer de faire avancer des thèmes. Donc, il y avait eu par exemple la Black Issue, hein. Et aujourd'hui c'est Vogue UK qui se positionne avec son rédacteur en chef Edward Hanningfull sur un créneau un peu plus de provocation pour faire avancer la société et donc il a décidé de nous suivre, de suivre L'Oréal Paris dans cette démarche qui est au cœur du travail de la marque, parce que la marque essaye, vous connaissez la signature I'm worth it, essaye vraiment depuis toujours de faire avancer la cause des femmes. Il y a eu un moment dans les années 90 où c'était un peu moins évident, et là il y a un vrai travail de transformation qui est fait, et ça c'est le symbole le plus fort. Donc tout ce qui a été fait sur ces 80 pages, ça a été fait, conçu, écrit, photographié par des femmes over 50. La chose intéressante après, c'est que par contre, ça parle à toutes les générations, parce que les réactions les plus positives ont été dans le cœur de cible du Vogue, c'est situé autour de 32 ans. Mmh. Et on a vu qu'effectivement c'était encourageant, parce qu'on sait d'ailleurs que vieillir est quelque chose qui angoisse plus les gens jeunes qui est les personnes âgées.
Ils sont déjà vieux. Donc.
Oui, mais aussi ils découvrent une forme de bonheur. Hein. On sait qu'on est plus heureux, passé la cinquantaine. Donc,
voilà. Mais j'imagine que cette cible aussi, parce qu'on disait, on en parlait avec Frédéric dans Hebdocom il n'y a pas longtemps, les seniors sont quand même assez délaissés dans la pub. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus, mais on a du mal à voir des images qui leur correspondent vraiment aujourd'hui dans les écrans publicitaires.
Non, tout à fait. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui change assez vite, mais pour l'instant, c'est un constat indéniable. Il y a une absence, il y a un vide. Il y a un vide et pourtant, si on raisonne même tout simplement en termes de marketing et d'impact, c'est une portion de la société qui grandit constamment.
Et qui a un pouvoir d'achat considérable en plus.
Absolument, absolument.
Frédéric ?
C'est quoi le rôle là maintenant de la publicité ? On voit ça, on voit la campagne pour Vogue. On a vu tout au long du festival de Cannes des campagnes qui s'engageaient, etc., qui faisaient du for good comme on dit en français. Il y a aucun autre moyen de faire quelque chose ? Je veux dire, est-ce que on vend plus du yaourt en disant manger du yaourt c'est bon, c'est sucré ?
C'est
mort cet aspect-là.
Non, je ne sais pas si c'est mort ou pas. C'est que je peux dire, pour mon expérience personnelle, c'est que je trouve qu'en tout cas, c'est une époque extrêmement intéressante pour la publicité et plus en général pour la com, parce que on a des possibilités infinies. En fait, le métier s'élargit.
Mais est-ce que les possibilités infinies, c'est pas finalement presque trop facile ? J'ai dit, avant, vous aviez un cadre ou une chaîne de ou un spot de 30 secondes.
Ah, mais le cadre, il reste toujours extrêmement contraignant parce qu'en fait, en fin de compte, ce qui compte, c'est le résultat à la fin. C'est le fait de vendre. Donc, disons qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu à Cannes, par exemple, c'est des campagnes qui ont effectivement ce côté for good ou qui s'attachent à des valeurs partagées, mais en même temps qui ont un impact incroyablement fort. Quand on prend Nike, par exemple, qui n'était pas Grand Prix Titanium, mais qui aurait pu l'être.
Mais ils étaient largement favoris.
Voilà. Il faut quand même regarder la courbe de vente après la campagne. C'est absolument impressionnant. Donc je pense que si on reste quand même, on se laisse guider par l'idée d'avoir un impact, en fin des comptes, après, peu importe qu'on soit contraint par des médias un peu plus classiques, des exercices un peu plus attendus ou des expériences un peu plus novatrices.
Merci beaucoup Ricardo Fregoso. Je rappelle que vous êtes le directeur de la création chez McCann Paris.
BFM Business, Hebdocom. L'édito.
Et cette semaine, c'est avec Simon Tenenbaum de la rédaction de BFM Business. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors cette semaine, on découvre que dans le top 100 des plus grands annonceurs américains, il y a Facebook, Amazon, Netflix et Google. Pourquoi est-ce que ces géants américains finalement décident de faire exploser leurs dépenses publicitaires ?
Non, déjà, c'est une première que ces quatre intègrent le top 100. Ils ont augmenté l'an dernier de 40% leurs dépenses publicitaires. 17 milliards de dollars au niveau mondial, à la fois sur Internet, mais aussi dans la presse et en télévision, signe que ces marques cherchent justement à parler vraiment plus au grand public, puisque c'est en télévision que la progression est la plus forte, 70% de hausse des investissements. Alors dans le détail, puisque les situations ne sont pas les mêmes évidemment pour ces quatre groupes, c'est Amazon qui dépense le plus. Le groupe est désormais le troisième plus gros annonceur américain. Amazon, troisième plus gros annonceur américain. Plus de 8 milliards de dollars d'investissement publicitaire au niveau mondial. C'est d'ailleurs le seul de ces fangs qui apparaît aussi dans le top 100 des annonceurs présents en France, dans la liste que fait Kantar chaque année. C'est le 14e plus gros annonceur en France, Amazon. Et rien que sur la France, Amazon a doublé ses investissements publicitaires l'an dernier, plus de 200 millions d'euros. C'est pas un petit joueur sur le marché français de la pub. Et là aussi, encore très forte progression en télé. C'est plus de la moitié de son mix média, la télé, pour Amazon, alors que ses dépenses sur Internet ont plutôt eu tendance à reculer. Alors ensuite, il y a Google, avec plus de 6 milliards de dollars de dépenses dans le monde. Puis Netflix, avec près de 2 milliards. Et Facebook, qui jusque-là n'était pas très présent en publicité, c'était pas un gros annonceur, qui dépasse le milliard de dollars de dépenses publicitaires. C'est celui qui affiche, et de très loin, la plus forte progression, puisqu'il a triplé ses investissements publicitaires l'an dernier.
Qu'est-ce qui peut expliquer cet engouement pour ces médias ?
Oui, alors on en vient effectivement aux raisons, et d'abord il faut dire que c'est des entreprises en très forte croissance, donc c'est logique qu'elles accompagnent leur croissance par des investissements publicitaires. Mais ça suffit pas à tout expliquer. compliqué. Dans le cas de Facebook, notamment, il y a évidemment le besoin de répondre aux polémiques sur les fake news, sur la vie privée, sur les fuites de données, et un besoin de défendre les valeurs de l'entreprise, d'expliquer les remèdes apportés à ces problèmes. Hein, Facebook a acheté plusieurs fois des pages de pub dans des grands quotidiens pour expliquer ce qu'ils pouvaient faire. On pense aussi à Google qui s'est beaucoup exprimé, par exemple, au moment du vote en Europe sur la directive droit d'auteur, pour expliquer pourquoi Google était opposé à cette directive. Et puis, les FANG doivent répondre à une concurrence qui s'intensifie, concurrence parfois entre eux. On pense à Amazon et Google avec leur offensive dans le cloud, leur offensive dans les enceintes connectées. On pense à Netflix et Amazon dans la vidéo. Évidemment, ils ont besoin d'appuyer leur avance dans la vidéo sur Internet, alors que Disney en particulier va arriver sur ce secteur à la fin de l'année. Et puis même Facebook, qui jusque-là communiquait très peu sur ses produits grand public, qui va commencer à le faire, déjà parce que sa conquête d'abonnés ralentit, donc il faut commencer à redire pourquoi Facebook c'est bien, pourquoi Instagram c'est bien. Et puis ils vont se lancer dans de nouveaux produits. On pense évidemment à Libra, la crypto-monnaie. Là, il va falloir quand même expliquer aux gens de quoi il s'agit et pourquoi il faut en acheter. Facebook prévoit d'ores et déjà de doubler ses dépenses publicitaires dans les deux prochaines années.
Moi, je me dis que ça va peut-être réconcilier tout le monde, puisque la télévision et les médias traditionnels disent que le digital aspire tout l'argent des annonceurs. Si eux se mettent à leur tour à reverser, ça va peut-être réconcilier les deux parties.
Oui, ça montre aussi que ces groupes de médias digitaux pensent que la pub télé est
encore efficace.
Est encore efficace, parce qu'ils y mettent beaucoup d'argent.
Mais oui, la télé n'est pas morte. Merci, Simon.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Et le zoom du jour, c'est autour de tout ce qui s'est passé à Cannes, encore une fois, autour cette fois du digital, avec Grégory Pascal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'ACC Digital et président fondateur de l'agence Sensio Gray, et à vos côtés Audrey Tamik, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ICD de Proximity Paris et Rap France, et vous étiez juré Digital Craft à Cannes. Le Grand Prix Digital cette année au Lyon, c'était Address the Future, c'était pour une collection de vêtements superposables sur vos selfies afin de ne plus recourir à la fast fashion. Qu'est-ce qui, selon vous, a justifié le choix du jury, Audrey?
Alors, je pense que ce qui a justifié le choix de ce prix-là, c'est la controverse infinie dans laquelle on est tombé. Je crois que ça a duré 5 heures, en fait. Sur le dernier jour, on était dans des affres de perplexité. Très très compliqué en fait de se demander, en fait, alors qu'on était dans un jury craft, donc le digital craft, tout à coup on faisait face à un travail qui relève presque de l'art contemporain, avec un propos très très fort, avec beaucoup d'insights, avec autant du coup de débats qu'il y avait d'insights, surtout qu'un jury c'est beaucoup de cultures qui se rencontrent. On avait des Chinois, on avait des Américains qui venaient de la tech. Donc comment faire en sorte que toutes ces provenances en fait aboutissent à un accord sur un cas qui est très particulier. Carling, parce que c'est Carling la marque qui est derrière, est partie d'un problème en fait. Les jeunes ont une addiction au social super-ego et chaque jour ils doivent être sur Instagram avec cette nouvelle tenue, cette autre et cette autre. Tous les jours en fait c'est un nouveau vêtement et potentiellement un autre problème qui lui concerne l'environnement, parce que toute cette consommation potentiellement ne va pas dans le sens du for good, et on a un gros problème de sustainability. Carling voit ça et Carling se dit: pourquoi ne pas mettre fin ou essayer d'aménager ce problème en inventant la première collection de vêtements virtuels pour 30 euros, je crois. Les jeunes ou les moins jeunes peuvent envoyer une photo d'eux et se faire habiller en 3D, ce qui est un moindre mal pour l'environnement. Alors, est-ce que c'est bien pour favoriser l'environnement d'encourager le social super-ego? Est-ce qu'il y a un problème éthique qui est plus fort que celui qu'on essaye de remédier? Je n'en sais rien, et c'est bien pour ça que pendant 5 heures, la controverse nous a vraiment habité. Et on était fiers, c'est vrai qu'on était tous très fiers de se dire oui, on est dans une catégorie craft, cependant, le craft pour le craft n'a aucun sens, alors continuons, sachant que c'était très bien fait, hein, y a aucun souci en termes de craft, continuons, et au final, je crois qu'il y a eu toute une suite de casting vote, parce qu'on n'arrivait jamais à trouver un équilibre, et on était super fiers d'arriver avec un discours sur le Grand Prix, qui est vraiment celui de cette controverse, en fait, qui est le reflet de cette controverse.
C'est super bien fait, et en même temps, c'est crade. Oui. Dire, c'est volontairement. Non, mais c'est intéressant parce que on est à une époque où on peut faire des trucs absolument sublimes, notamment avec le virtuel, la 3D. Et là, vous avez primé quelque chose d'intéressant sur le plan sociétal,
oui.
D'une part.
Oui.
Et d'autre part, sur le plan visuel. Particulier, c'est-à-dire que c'est quand même c'est recherché pour ne pas être parfait, quoi, en quelque sorte.
Je comprends. Après, on part d'un point qui est l'envie de tous ces jeunes d'être présents sur les réseaux sociaux tous les jours, différemment. Comment s'expriment-ils sur les réseaux sociaux de cette façon? Et le digital, souvent, quand il est le plus efficace, c'est quand il s'efface et qu'il connecte avec des usages. La manière dont les jeunes, naturellement, veulent s'exprimer, elle est là. Donc, réussir à s'infiltrer dans cette pratique visuelle et dans cette esthétique qui se développe, oui, ça fait partie du craft, en fait. Ça fait partie du craft.
Grégory Pascal, on revient toujours à l'éternelle question qui se pose, mais en fait, aujourd'hui, une campagne, elle est forcément engagée, parce que là, c'est notamment en faveur de l'environnement, notamment en faveur de l'eau. Même sur le digital, il n'y a plus moyen de faire une campagne pour une campagne.
Je pense en fait ça s'oppose pas. En fait, ce qu'on recherche avant tout, et on a toujours cherché ça à travers la publicité, mais encore plus sur les réseaux sociaux, c'est d'engager les consommateurs, de leur parler, de leur raconter des belles histoires. Et en fait, c'est la convergence entre une belle histoire racontée par une marque sur un propos qui va toucher les gens, en fait, qui crée la convergence. Donc forcément, c'est plus simple de raconter une belle histoire autour d'un beau projet sociétal.
Et c'est plus facile de récompenser aujourd'hui forcément du for good. Ça se fait plus de pas récompenser du for good.
Personnellement, en fait, moi j'ai participé récemment en tant que président à un grand prix et j'ai voulu en fait écarter une catégorie spécifique là-dessus parce que je pense quand même que le rôle d'une agence aujourd'hui, c'est de favoriser l'émergence de marques, de favoriser en fait la top line des entreprises et on est là pour les aider à vendre. Mais je crois qu'en fait aujourd'hui, en fait, on est dans un monde de convergence entre le pro, le perso, entre l'engagement et le marketing. Et c'est en fait ça qui fait qu'on essaie de trouver en fait les ressorts qui vont à la fois parler et à la fois nourrir aussi profondément une marque. Personnellement, moi je trouve que la grande force, c'est quand on arrive parfois à utiliser ses propos, pas nécessairement, mais pour nourrir le narratif de la brand equity, pour créer quelque chose qui ait de la valeur et pas uniquement en fait le dispositif purement publicitaire. Donc il faut quand même pas perdre de vue le sens ultime de notre métier, qui est d'aider les marques à être mieux connues, à être mieux achetées, à être mieux reconnues. Et finalement à toucher les gens.
Dans la suite de la question que vient de poser Aurélie, moi je dis aussi, aujourd'hui une campagne est nécessairement digitale, il n'y a quand même plus beaucoup de campagnes qui ne le soient pas. Donc du coup, c'est quoi être une agence digitale? Parce que si on fait une campagne, si on est une agence, on fait une campagne, elle est digitale. Donc c'est quoi la particularité aujourd'hui d'une agence digitale?
Je pense, et c'est une excellente question, je pense qu'on se la pose aujourd'hui au niveau de la profession. Au départ, en fait, on était un espèce de matériau hybride qui faisait converger la capacité à produire des dispositifs et des idées. Je pense que ça reste ça aujourd'hui. La caractéristique d'une agence digitale, c'est la convergence en fait de la création, de la data et de la tech. Alors, sur la création, effectivement, on peut avoir une convergence avec les agences de publicité qui vont utiliser aussi les supports. Ce qui caractérise une agence digitale, c'est cette capacité en fait à jongler avec ces trois dimensions et à les faire se répondre les unes avec les autres.
Ouais, y en a d'autres, des grandes agences qui savent faire ça in-house, si on peut dire.
En fait, on s'aperçoit que même, y compris chez les agences digitales, l'émergence des plateformes a un peu sorti la tech, en fait, et la dimension technologique des agences. Mais la caractéristique d'une agence digitale, c'est de pouvoir réellement manipuler ses outils, ses plateformes, ses data, ses bases de données, et les faire converger pour créer, en fait, de l'efficacité. Je dirais que la création et la créativité, c'est un moyen, et à travers les outils complets du digital, on va essayer, en fait, de leverager l'efficacité des campagnes. C'est ça notre rôle.
À propos d'outils technologiques, il y a eu une période où on parlait beaucoup de réalité augmentée, réalité virtuelle. Là, cette année, il y a quand même, je crois, un cas avec Ubisoft et DDB Paris sur de la réalité augmentée. Oui. Mais c'est un peu passé de mode. C'est une impression ou...
Oui, ben je me suis entendu dire ça. En fait. Je me suis vraiment entendu dire ça. Je crois même que je l'ai dit au moment même où notre jury démarrait. Ah
oui.
Je crois même avoir dit « Pardon, mais je ne suis pas venue chercher de la réalité augmentée ou de l'immersion. Je pense qu'on pourrait passer à autre chose. Mais j'attendais d'être confirmée dans mon jugement. C'est vrai, il y avait peut-être encore un tiers, voire plus, de cas qui relèvent de l'immersion, de la confusion entre le réel et le virtuel. Et puis, ça nous fatiguait. Parce qu'en fait, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup vu. Et à ce stade-là, en fait, il faut vraiment réussir à arriver avec une idée pour que tout à coup le travail émerge. Parce que de la réalité augmentée en faveur de la cause de la diversité, on en a vu plein, de la réalité augmentée en faveur du combat contre la surdité, on en a vu plein. Soit, c'est pas l'usage, l'application en fait qu'on fait de ça en fait qui est clé pour qu'on voit un cas émerger, c'est l'idée. C'est vraiment l'idée. Et là, en fait, c'est vrai que le My Life as an NPC de Ubisoft et DDB, c'est quelque chose qui tout à coup nous fait sourire, en fait, nous fait vraiment sourire. Et on n'a pas primé le fait que ça relève de la réalité augmentée du tout. En fait, on a primé une idée qui était correctement, très correctement même, pour le coup, exécutée en termes de craft, en faisant recours à une technologie qui n'est qu'une technologie. Mais vraiment, au moins une après-midi avec des casques Rift et tout, on en a vu beaucoup, beaucoup. Et c'est pas ce qu'on cherchait tous. Vraiment, je m'en suis aperçue au bout de 5 jours. Il y avait une vraie curiosité par rapport à la voix.
Ouais.
Et on a un grand prix, un gold en fait, qui est The Maze. Maze, le travail qui nous immerge dans l'univers de cette série The Maze par la voix. C'est magique en fait, en termes de craft sonore. Et ça nous a semblé être plus à l'image de ce qu'on a envie d'aller chercher, parce que ça relève de l'innovation de nos jours.
Merci beaucoup Audrey Tamik, je rappelle que vous êtes ici de Proximity Paris et Rap France, et Grégory Pascal, président de la ACC Digital et président fondateur de l'agence Sensio Gray. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés tout au long de cette saison. Bel été à tous sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdo.com sur BFM Business.